Frédéric est père de quatre enfants, Clémence, Émilien, Madeleine et Louise. Et il est lui-même issu d'une famille chrétienne engagée et il a été bercé depuis son enfance dans les Écritures. Et puis il a donné sa vie à Dieu à 14 ans et c'est là qu'il a décidé de lui faire confiance et de le servir. Alors il s'est préparé pour des études de dessin industriel et puis finalement la tournure a été tout à fait différente puisqu'il a eu la conviction que Dieu l'appelait à servir, appelait à le servir à plein temps. Donc après avoir eu son bac, il est donc parti étudier à l'Institut biblique d'Emmaüs en Suisse, c'était de 85 à 88, rempli de la certitude que Dieu le voulait à son service au sein de son corps, l'Église. Il a ensuite été pasteur à Alès et puis aussi à Codognan dans le Gard. Il s'est aussi engagé pendant une dizaine d'années aux côtés de France Évangélisation, donc dans un ministère itinérant en tant que pasteur évangéliste, 2001-2011. Et puis en 2002, son épouse décédait subitement. Il est resté seul avec ses quatre enfants, mais bien épaulé par les grands-parents maternels et paternels qui lui ont permis de continuer à travailler en les gardant les week-ends. Après ce temps de souffrance et de deuil, le Seigneur lui a fait la grâce de rencontrer Christine, qui est devenue son épouse en 2005 et qui aujourd'hui partage avec lui les joies, mais aussi les combats du ministère. Et pour finir, il a aussi été directeur pendant quelques années de l'Institut biblique Concours pour enfants. Alors certains le connaissent peut-être, ça existe depuis très longtemps. Moi, je l'ai fait étant petit. Et là, il était basé, enfin, l'Institut biblique pour le concours était basé à Saint-Julien, en Saint-Alban, dans l'Ardèche. Et voilà, Frédéric est aujourd'hui présent parmi nous pour la sixième fois. Et nous sommes heureux de t'accueillir, Frédéric.
Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce... Ouais, j'étais surpris d'avoir tant de... Bon, sur le site, tout est écrit, mais... Et puis, il manque quelque chose quand même, parce qu'il faut que je mette un peu à jour mon site, parce que je suis grand-père 5 fois maintenant. Donc, c'est quand même un grade particulier dont je suis fier, et que voilà, c'est rajouter cela. Merci pour, en tout cas, ce rappel. Voilà, donc nous avons dit que... Nous allons entrer dans la semaine que l'on appelle plus communément la Passion, avant le temps de la louange, de la reconnaissance que dimanche prochain nous célébrerons les uns et les autres par la résurrection de Jésus. Et c'est sur un moment particulier de la vie de Jésus, dans ce temps de la Passion qui va venir dans la semaine, que j'aimerais m'arrêter ce matin avec vous. Jésus donc arrive à Jérusalem, c'est le temps des rameaux. On a mis le vidéo, c'est bon ? Ouais, voilà. Ok, ça marche. Et il va venir auprès de son peuple ici à Jérusalem. Il sait que c'est la dernière fois qu'il y vient. La croix l'attend, le combat commence, plus particulièrement, plus dur, plus fort, jusqu'à, on va le voir, un sommet quelque part. Où Jésus va devoir lutter de façon particulière. Et c'est ce texte que nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46. Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une heure avec moi ? Restez vigilant, priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Il y a des moments dans notre vie où les combats sont plus intenses. Nous sommes affligés par de mauvaises nouvelles, par des situations qui nous révoltent, que nous ne comprenons pas, voire même que nous n'acceptons pas. Peut-être sommes-nous alors paniqués lorsque l'avenir s'assombrit. Et malgré la confusion qu'il peut y avoir dans notre esprit, et aussi la profusion des promesses que nous connaissons dans l'Écriture, lesquelles nous rappellent de rester en paix, serein, confiant, admettons que nous pouvons parfois perdre pied. Le passage que nous avons lu rapporte vraiment un moment particulier de la vie de Jésus, et particulièrement difficile. Le Seigneur est en plein combat, un combat spirituel. À sa lecture, nous constatons que le doute, la crainte et la peur l'envahissent simultanément. Et la question qu'on peut se poser, mais comment le Fils de Dieu lui-même peut-il sembler être autant terrassé à Gethsémané? Comment peut-il se laisser, d'une certaine façon, un peu déstabiliser? Eh bien, parce que tout simplement, et tout Fils de Dieu qu'il est, il est aussi Fils de l'homme. Pleinement homme. Et son humanité transpire derrière ses réactions. Un jour, il va poser cette question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et là, il parle de son humanité, tout en étant divin. Et là, Jésus nous rejoint, quelque part, grâce et à travers cette humanité. Et il nous comprend. Il te comprend. Toi qui vis une situation difficile, toi qui peux douter de beaucoup de choses aujourd'hui, il te comprend. J'ai toujours été frappé par ce combat à Gethsémané, et lorsqu'on y réfléchit, on se rend compte combien l'attitude de Jésus pourrait bien être un exemple à suivre pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, particulièrement dans la manière dont il a géré la situation. Il a tout d'abord pris avec lui des disciples, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté seul. Ensuite, il n'a pas caché ses émotions. Et enfin, il ne s'est jamais éloigné de son Père. Trois attitudes sur lesquelles je vais m'arrêter et qui nous seront probablement, et j'en suis certain, une aide lorsque nous traverserons, comme dit David dans le psaume 23, la triste vallée de l'ombre de la mort. Ne pas rester seul. Lorsque Jésus choisit ses disciples, l'évangile de Marc montre bien les deux buts que le Seigneur poursuit. Il nous est dit, Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. À plusieurs reprises, dans les évangiles, nous voyons que Jésus va prendre avec lui ce qu'on pourrait qualifier d'intime, Pierre, Jacques et Jean. Parfois, ils sont là que tous les trois et Jésus volontairement les prend tous les trois pour des situations bien souvent très exceptionnelles ou particulières, comme à la Transfiguration par exemple. Ils sont là tous les trois, pas les autres. Et c'est justement le cas à Gethsémané, où si tous les disciples sont bel et bien présents, à part bien sûr Judas, qui est en train de préparer l'arrivée avec les sacrificateurs pour le trahir, tous sont présents. Mais trois d'entre eux sont conviés à le suivre un peu plus à l'écart. Venez avec moi, tous les trois. J'ai besoin de vous. Non, il n'y a pas ici de, dirions-nous aujourd'hui, de discrimination choisie et intentionnelle, non. Mais Jésus connaît ses disciples. Il sait aussi ce dont ils vont avoir comme responsabilité à venir. Il les a peut-être plus particulièrement préparés, Et puis peut-être y avait-il entre eux, peut-être un atome crochu un peu plus fort, un peu comme on peut avoir entre les uns et les autres. Que sais-je, qu'importe. Toujours est-il que ces trois disciples vont devenir les locomotives de l'Église naissante. Et nous le voyons dans les textes qui vont suivre. Jésus a besoin de leur présence à ses côtés. Il leur fait confiance, il les prend une dernière fois avec lui, mais ces trois hommes ne peuvent pas lutter. Ils s'endorment. La nuit est avancée, ils sont fatigués. Mais ils sont là. Ils ont obéi au Seigneur, ils l'ont suivi. Leur présence peut rassurer l'homme Jésus, même s'ils ne combattent pas avec lui comme ils l'espéraient. Ceci dit, quelques heures auparavant, pendant le dernier repas, Jésus dira cette fois à tous ses disciples ceci, « Vous, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Si Jésus a jugé bon et utile de s'entourer de disciples, à combien plus forte raison devrions-nous aussi nous entourer d'un Pierre, d'un Jacques et d'un Jean ? Savoir être assez humble pour partager nos fardeaux, nos luttes, nos découragements, nos doutes. Ouvrir son cœur à cet ami dont nous savons qu'il aura compassion et nous sera pour nous salutaire dans le partage, dans la confidence. On a évoqué dans mon parcours le décès de ma première épouse qui a été effectivement une épreuve difficile. Et avant son décès, elle était atteinte de maladies psychiatriques pendant pas mal d'années. Il y avait des temps compliqués. Et je me souviens avoir un ami que j'ai toujours, qui avait une dizaine d'années de plus que moi, j'avais une trentaine d'années. Et quand j'avais besoin, je l'appelais. Et il venait, quelle que soit l'heure de la journée. Parfois c'était 10 heures du soir, il avait une heure de route à faire. Alors ce n'était pas tous les jours, bien sûr, heureusement, mais... Et il venait, il était là. Et parfois il venait... Et tels les amis de Job, avant qu'ils ouvrent la bouche, lui n'ouvrait pas la bouche et il était là à mes côtés. Il me prenait dans ses bras et je sentais cet amour, cette compassion et je pouvais m'étaler quelque part et voilà, partager avec lui. C'est capital. Mais pas que dans les moments difficiles, hein. Il y a aussi d'autres situations où nous avons besoin d'un Pierre, d'un Jacques et d'un Jean. Attention à l'orgueil de penser que nous pouvons nous en sortir tout seuls, même si nous avons un fort caractère, même si nous sommes de cette nature et de cette trempe-là, nous avons quand même besoin. À un moment donné, nous aurons besoin de partager. Ayons cet ami sur lequel nous pouvons nous confier. N'oublions pas que l'apôtre Pierre écrira que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et vous savez, quand Pierre écrit ça, il a vécu ce qui était terrible pour lui, le fameux reniement, dans ce temps de la Passion aussi, hein, où il a été tellement orgueilleux de dire devant les autres disciples, quand Jésus disait « Vous allez être criblés par l'ennemi Satan, moi jamais je ne te renierai, moi j'irai jusqu'à la mort pour toi. » Et puis finalement, il a renié le Christ. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ne pas rester seul. Apprenons à cela. La deuxième pensée que je veux partager, c'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas contenu ses émotions. Alors qu'il s'approche du moment, on peut dire, le plus terrible à vivre, c'est-à-dire la croix. Mais en fait, c'est aussi pour ce moment-là qu'il est venu. Donc, il le savait. Jésus est, dit-il dans le texte, saisi de tristesse et d'angoisse. Son âme est triste, dit le texte, à en mourir. Et Jésus fait part avec confiance de ce qui se passe en lui aux disciples auxquels il a demandé de l'accompagner. Parce que si Luc l'écrit, si Matthieu l'écrit, pardon, c'est parce qu'ils l'ont su. Les trois disciples en ont parlé. Nous avons accompagné Jésus, voilà ce qu'il nous a dit, voilà ce qu'il vivait. Et peut-être l'ont-ils dit au moment où Jésus était sur la croix, au moment où il est mort sur la croix, où on l'a mis au tombeau, peut-être ont-ils discuté lorsqu'ils se cachaient ensemble. Parce que souvent, quand on vit un drame, un traumatisme, et surtout dans le deuil, on se rappelle de tout ce qui s'est passé quelque temps avant. et on se remémore ces temps-là, comme pour les garder, pour ne pas oublier. C'est dans son âme qu'il souffre. Sa douleur est exclusivement morale à ce moment précis à Gethsémané. Elle va devenir aussi physique dans quelques heures lorsque les clous le transperceront. Et sa douleur morale est tellement forte qu'une réaction même physique se fait. C'est sous la plume de Luc que nous la lisons. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Lui qui pouvait demander une légion d'anges à son père. Lui qui a apaisé la tempête, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a guéri tant de malades, chassé des démons, le voilà lui-même saisi d'un trouble inexprimable face au moment pour lequel il est descendu du ciel. Donc Jésus ne cache rien, jusqu'à révéler même son désir d'échapper au supplice de la croix. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe dont il parle. Jésus l'avait évoquée quelques heures plus tôt avec ses disciples lors du repas pascal. Lorsqu'il dit qu'il prit cette coupe, il rend grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Cette coupe dans laquelle se trouve du vin est le symbole de ce qui va se passer quelque temps plus tard. Le sang de Jésus qui coule pour nous. Et le souhait de Jésus, dire à son Père, « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, est tellement humain. » Parce qu'il a déjà vu des gens se faire crucifier, c'est évident. Il sait ce qu'il attend. Et l'homme naturel, veut s'éloigner des souffrances. Oui, nous sommes faits d'émotions, nous vivons d'émotions, nous nous construisons par nos émotions. Chacun possède sa personnalité avec ses propres caractères. Une émotion nous arrive parce que nous sommes des êtres créés avec cette sensibilité-là. Un beau coucher de soleil nous submerge. Une bonne nouvelle nous réjouit. Mais une mauvaise nouvelle nous remplit de crainte. Peut-être de larmes et de pleurs. La vue de la souffrance qui nous entoure développe de l'empathie, etc., etc. Nous sommes faits ainsi. Et Jésus est aussi fait ainsi. Les repousser, ces émotions, reviendraient quelque part à nier notre nature humaine. Et ce n'est pas une faiblesse que d'exprimer ces émotions. On entend peut-être moins maintenant, mais il fut un temps, on disait, les hommes, ça ne pleure pas. Pourquoi ? Pourquoi les hommes, ça ne pleurerait pas ? Parce que les hommes, peut-être, sont plus fiers que dans leur sensibilité que ces dames. On ne veut pas montrer une certaine faiblesse à verser quelques larmes ou à dire que l'on ne s'en sort pas. Après tout, je suis un gars, comme dirait, je suis un mec. Non, un homme, ça pleure aussi. Jésus a toujours été vrai dans ses sentiments. L'Écriture nous dit qu'il a ressenti les mêmes choses que nous, sans jamais, bien sûr, céder à ses émotions. « Nous n'avons pas, dit-il, un souverain sacrificateur, l'Épître aux Hébreux, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » C'est là la différence avec nous, bien évidemment. Et il ne pouvait pas commettre de péché, il ne devait pas commettre de péché, puisqu'il devait prendre sur lui le péché de l'humanité. C'est pourquoi les émotions telles que la colère, la peur, le souci, la dépression, l'amertume, le désarroi et la douleur du deuil sont normales. Dieu ne s'attend pas à ce que nous prétendions être toujours joyeux lorsque nous souffrons. Matthieu nous dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Donc il faut pleurer. Le chrétien n'est pas un super-héros qui doit rester stoïque en toutes circonstances, même si l'apôtre Paul nous écrit « Soyez toujours joyeux ». Il y a la façon de comprendre aussi ces textes-là. Est-ce que nous osons exprimer nos émotions? Ou bien sommes-nous de ceux qui, par pudeur ou orgueil, cachent cela? Il n'est pas rare dans l'Écriture de voir des hommes de Dieu exprimer les émotions comme un Moïse, le prophète Jonas, qui lui va se rebeller contre Dieu. Il y avait une émotion chez lui aussi. Ou Élie, et bien d'autres. Beaucoup d'entre eux exprimaient des émotions telles que la colère, la peur, le souci, la dépression, l'amertume, le doute, nous en avons parlé. Je me souviens, quand j'ai vécu ce drame, d'avoir eu comme émotion, bien évidemment, celui un peu de l'incompréhension et un peu de colère contre Dieu, en disant pourquoi. Et en même temps, quand on arrive à, par la grâce de Dieu, à garder foi et confiance, alors ces émotions de colère se transforment en émotions de sentiments de compréhension de la part du Seigneur, d'écoute tout simplement. Les émotions suscitées par les expériences que nous traversons, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, sont toujours utilisées par Dieu pour nous apprendre à dépendre toujours plus de lui. Et ainsi nous faire grandir dans la foi et dans l'interdépendance, à l'exemple même encore de Jésus, dont il nous est dit dans Hébreux 5, « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, et ça c'est quelque chose qui nous étonne, qui est surprenant, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. L'incarnation qu'il a eue lui a imposé le fait d'apprendre à obéir à son Père, de Dieu qu'il était, d'une position égale au Père, de toute éternité. Dit l'apôtre Paul dans Philippiens 2, il s'humilie, il prend la forme d'un homme, il vient parmi les hommes, il se met à la hauteur des hommes, au niveau des êtres humains, à tous les étages, si on peut dire. Il est dit qu'il s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Et à ce titre, il doit être soumis au Père, parce qu'il devient cet homme. Comme nous-mêmes, en tant qu'hommes, femmes, enfants, nous devons apprendre à être soumis au Père, l'obéissance. Il n'a pas caché ses émotions. Et puis une dernière pensée. Il ne s'est pas éloigné de son Père. Je pense à ce psaume 34, verset 9, qui nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » On peut avoir et vivre des situations extrêmement douloureuses si nous gardons, même sans savoir pourquoi les choses se passent, cette pensée proche de Dieu, alors nous serons heureux, malgré tout. Une joie qui ne sera peut-être pas exprimée, mais une joie qui sera plus dans cette paix, cette sérénité. Moi, je l'ai vécu. Et si Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémané après ce repas pascal, c'est uniquement pour chercher la face de son Père. Et il le dit à ses disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et c'est là que nous entrons dans le combat qui sera pour Jésus le plus terrible, un combat spirituel nommé déjà. Dans les moments difficiles, lorsqu'une tempête s'abat sur nous, comment réagissons-nous? Notre premier réflexe est-il celui de la prière, du cri à Dieu? Et quand je parle de prière, c'est bien entendu cet éclat de voix, quelque part, de cœur qui explose, qui nous pousse vers Dieu, à l'image d'un éclair qui jaillit dans un ciel d'orage. Jésus sait l'importance de l'intercession et de l'interconnexion avec son Père. Il a passé des nuits entières à prier durant ces 3 ans et demi passés, justement parce qu'il se savait, en tant qu'homme, vulnérable face à la capitale mission confiée par l'Éternel. Alors si Jésus a pris le soin et a eu besoin de prier pendant ces 3 ans et demi, régulièrement, à plus forte raison, nous avons aussi besoin d'entrer dans ces combats spirituels, dans la prière. Et je sais, parce que je le vis, et je pense que vous le vivez aussi, la prière est peut-être un des combats les plus difficiles que nous avons à mener. Combien de fois, quand nous décidons de prier, des petites choses arrivent à notre esprit pour nous empêcher et nous faire penser à autre chose, et faire autre chose. Je le vois dans les églises, j'ai été pasteur pendant 12 ans de 2 communautés, et ça a été rappelé, et je le vois encore aujourd'hui dans les communautés. Je parle un petit peu avec les collègues, les pasteurs, qui me disent un petit peu comment se passe leur vie d'église. Et on remarque qu'effectivement, le dimanche matin, il y a beaucoup de gens dans les assemblées. C'est bien, tant mieux. Et puis, quand il y a une étude biblique en semaine, il y a déjà beaucoup moins de monde. Et quand il y a aussi une réunion de prière, il y a encore moins de monde. L'impression que ça descend chaque fois un peu plus bas. Au niveau de... Alors, je ne dis pas qu'on est obligé de prier ensemble, il faut être là, etc. Mais ça montre que c'est le combat le plus difficile. Vous savez pourquoi c'est le combat le plus difficile ? Bien parce que Satan sait que c'est par la prière qu'il va reculer. Donc, il va tout faire pour nous empêcher de prier. Grâce à cette habitude qu'avait pris Jésus, il ne s'est, on peut le dire, jamais laissé submerger ni contrôler par ses émotions. Ces dernières étaient bien réelles, nous l'avons vu, mais elles n'ont pas influencé ni arrêté le Seigneur dans sa mission. S'il avait pensé vouloir ne pas aller à la croix, « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe », il se reprend. Et il se reprend aussitôt. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est là que la prière a la puissance, quelque part. C'est là que Dieu, et le texte l'avait dit dans un autre texte, on l'a lu, a répondu à sa prière, à son souhait. Je veux aller au bout. C'est pour ça que je suis venu. Mais face à la croix, face à ce qui va se passer, Seigneur, Père, j'aimerais bien ne pas passer par ça. Y a-t-il pas une autre solution ? Qu'on puisse trouver, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est là que nous comprenons qu'il a appris l'obéissance. Et c'est cette proximité qui lui permet de prendre position et d'accepter d'obéir à la volonté de son Père, et ce malgré ses fortes émotions qui le submergent. Christ, entrant dans le monde, a dit, l'Épître aux Hébreux l'écrit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. » Ça, c'est l'incarnation. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens, dans le rouleau, il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Voilà ce qui s'est passé dans le ciel. Oui, mon fils, il n'y a pas d'autre solution. Les sacrifices de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ne suffisent pas. Les animaux ne sont pas parfaits. Ce n'est pas comme cela que je veux et que je peux faire revenir l'homme dans mon jardin. Depuis qu'il est chassé de ce dernier à cause du péché. Il faut quelqu'un de parfait. En fait, il faut que moi-même, je prenne la place des animaux. Parce que Jésus est Dieu. Il est l'agneau. Quand vous lisez l'Apocalypse, jusqu'au chapitre 4, lorsqu'il est question du Fils de Dieu, on parle de Jésus, du Christ. Mais à partir du chapitre 4, et jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, à part, je crois, 1 ou 2 exceptions, quand on parle du Fils de Dieu, on parle de l'agneau, uniquement de l'agneau. Il est en fait le sacrifice qui descend du ciel pour prendre la place des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et ce sacrifice étant parfait, il n'y a plus besoin, bien évidemment, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit au chapitre 10, d'offrir à nouveau des sacrifices, car Christ suffit. Et ça, c'était le plan de Dieu. On n'a pas à le discuter, c'est ainsi. Il peut nous étonner, il peut nous surprendre, il peut même nous choquer, c'est ainsi. Dieu est souverain. À moi d'accepter cette solution que Dieu me donne, l'unique solution pour que je puisse être réconcilié avec lui. Dieu, Jésus, prend le péché, mon péché sur la croix, et me libère de cette oppression, et me permet d'entrer à nouveau dans le paradis perdu, dans sa relation avec lui. Alors, dit le texte, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Voilà la réponse du Père. Tes disciples sont avec toi, certes, ils se sont endormis, ok, ils sont là, à tes côtés, ils t'ont accompagné, mais je t'envoie quelqu'un, je t'envoie quelque chose, je t'envoie un ange qui va te fortifier. Réaction du Père pour donner de la force à son Fils. Quand les malheureux crient, dira le psaume 34, l'Éternel entend et il le sauve de ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ainsi, la présence de l'ange, tel un ami à ses côtés, lui permet de persévérer dans sa décision d'aller jusqu'au bout. Et là, Satan a perdu. Parce que c'est ce combat-là. Si Jésus-Christ, et il en avait la totale liberté, avait décidé de ne pas aller jusqu'au supplice de la croix, par peur, par crainte, humainement parlant, nous ne pourrions pas être là aujourd'hui. Satan savait que c'était le coup fatal. Pourquoi ? Parce que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, Dieu avait dit à Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Déjà dans le jardin d'Éden, avant que l'homme et la femme en soient chassés, Dieu avait donné la solution et savait que ce serait le fils, il disait que ce serait le fils d'une femme qui assènerait le coup fatal dans sa puissance de destruction de Satan lui-même. Et il le savait, Satan. Et il attend ce jour. Il le repère, ce fils. Et il l'a repéré, ce fils. Parce que lorsque Hérode, par exemple, saisi par Satan lui-même, fait assassiner tous les enfants de Bethléem, temps de Noël, c'est bien pour essayer de tuer dans l'œuf cet enfant qui vient de naître. Parce qu'il sait, il a compris que c'était le fils de la femme. Quand Jésus sera tenté dans le désert, après 40 ans de jeûne, il va tout faire à l'ennemi pour le faire chuter. Car s'il chute, il ne peut plus être l'agneau parfait. Et quand Jésus est sur la croix, cloué, qu'il attend la mort, il y a quelqu'un qui, du bas, fait fuser cette parole terrible pour Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Vous imaginez la tentation qui est donnée là encore par Satan lui-même. Mais bien sûr que je suis le Fils de Dieu. Mais bien sûr que je peux vous le montrer comme vous voulez, quand vous voulez. Mais je ne suis pas venu pour ça. L'homme aurait pu, là, dire « Je suis le Fils de Dieu et je descends de la croix, regardez. » Mais il ne serait pas ainsi mort pour le péché. Satan était jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, pour essayer de déstabiliser Jésus. Mais la prière à Gethsémané, le combat qu'il avait mené, la position qu'il avait prise, c'était fait. L'ennemi ne pouvait plus rien faire. Avant de conclure, si je puis me permettre, encore un petit témoignage à propos de prise de décision. Parfois, on a des situations qui sont assez étonnantes. Je me souviens, encore une fois, c'était la période difficile où c'était après la mort de ma femme, quelques jours après l'enterrement. Je me souviens, en pleine nuit, je me suis réveillé et j'étais à demi conscient, mais j'étais réveillé parce que je m'en souviens encore très bien. Et je vois devant moi un géant qui ricane et qui était comme ça, impressionnant, et qui me dit, parce que j'entends vraiment, c'est en moi ou extérieur, je ne sais plus, mais en tout cas c'était très clair, et j'entendais ceci, « Arrête ton ministère ». L'enjeu était là. Tu ne peux plus rien faire avec tes quatre petits, là. Tu ne peux plus partir. Arrête ton ministère. Et je me souviens, par la seule grâce de Dieu, je ne sais pas comment, pourquoi, d'avoir cité la parole de Jésus qui lui a dit à Pierre, quand il était dans cet esprit, « Jamais je te renierai, arrière de moi, Satan, tu n'auras pas le ministère. » Et en disant cela, tout de suite, il y a comme une petite voix qui m'a dit « baisse les yeux ». J'ai baissé les yeux et j'ai vu au pied de ce géant une table et sur cette table, il y avait de la nourriture. Ce que je voudrais préciser, c'est que j'avais arrêté de lire ma Bible après la mort de ma femme pour quelques temps, hein, quelques jours. Je ne pouvais pas, j'avais du mal. Voilà, ce n'était pas une révolte, mais peut-être un peu. Mais il y a une chose que je faisais des dizaines de fois par jour. Je récitais dans mon cœur le psaume 23. Je ne voulais pas lâcher la main de Dieu, mais en même temps, j'avais perdu mon rythme de lecture quelque part. Et le psaume 23, il y avait une chose que je ne comprenais pas. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. » Je n'avais pas saisi ce texte. Mais là, dans cette vision, c'est une vision ou une réalité, c'est comme si le Seigneur m'a dit « Ok, tu viens de prendre position, maintenant c'est ok, on continue, mais on va prendre le temps, tu vas manger, tu vas te poser, on va pas s'énerver, on va aller tranquillement. » Et ça m'a fait un bien fou. Mais c'est une grâce, hein. Prendre position, c'est aussi le fait de rester en communion avec Dieu, même si des fois on lâche un peu sa main, hein. Et être prêt à obéir malgré tout. Parce que bah, les combats, bah, ils ont continué, hein. Ça n'a pas été facile non plus, hein, bien évidemment, mais le Seigneur était là. Et son ange, je pense, est venu aussi, un peu comme le Seigneur, pour m'aider à continuer à avancer. En tout cas, c'est ainsi. Et puis, je sais que beaucoup de gens priaient en France et ailleurs parce que mon ministère itinérant avait démarré. Je sentais la puissance de la prière. Oui, c'est parce qu'il ne s'est pas éloigné de son Père que l'homme Jésus a eu la force d'aller jusqu'au bout du combat. Et Paul aux Colossiens a dit ceci, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, il a triomphé d'elles par la croix. » C'est là que nous comprenons que Jésus, le combat est gagné au moment de la croix. Et nous savons que ce moment de la croix, et vous le relirez dans la semaine, hein, était un moment exceptionnel où pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. En tout cas, il y a eu probablement une éclipse de soleil, quelque chose de ce type, qui a fait que le temps s'est assombri soudainement, comme pour montrer physiquement, réellement, le poids du péché qui sont des ténèbres spirituelles qui étaient là sur le monde et que Jésus, quelque part, prenait. Puisque le matin de Pâques, et vous le relirez, la lumière va jaillir ce matin de Pâques. Le soleil va poindre ce matin-là, s'opposant ainsi à la lumière, montrant ainsi, presque comme le Seigneur, le Père avait fait, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il dit que la lumière soit. Il ne lève pas les ténèbres, il les pousse, il les repousse avec la lumière. Et la résurrection nous amène ainsi vers le ciel de gloire. Ne pas s'éloigner de Dieu, mes amis, c'est déjà être dans une position de victoire sur l'épreuve. Mais il faut le décider. Je décide de rester à tes côtés, Seigneur. Maintenant, s'il te plaît, aide-moi. Alors, je reprends simplement, je rappelle ce que nous avons partagé. Jésus n'est pas resté seul. Sachons nous entourer. Jésus n'a pas caché ses émotions. Sachons aussi ouvrir notre cœur. Jésus ne s'est jamais éloigné de son Père, restons proches de lui. La prière est l'élément essentiel. Alors je terminerai par ce psaume que j'aime beaucoup, ce psaume 116, les 4 versets. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux, il est juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Est-ce que l'Éternel vous a fait du bien, mes amis? Restez dans ce repos. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Nous mourrons un jour, certes, sauf si le Seigneur nous reprend avant. Mais il nous a délivrés de cette mort. Puisque la mort n'est qu'un passage, le cœur s'arrête, mais la vie continue dans sa présence. C'est cela qui nous encourage. Gardons cela à notre esprit avant son retour. Prions. Seigneur Jésus, quelle grâce encore d'avoir pu prendre ce temps. Nous voulons encore, Seigneur, nous laisser interpeller par ta parole, par ton esprit, car toi-même, Seigneur, tu parles à chacun. Et si quelqu'un ce matin était venu, un peu comme le Christ à Gethsémané, fatigué, peut-être craintif, troublé, ô Seigneur, maintenant, touche son cœur, relève-le, qu'il puisse crier à toi comme le Seigneur a crié aussi à toi. Ô Jésus, tu ne nous abandonnes pas, tu nous as promis ton aide, ton soutien, et je sais que tu es là. Seigneur, béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus que nous attendons, qui vient bientôt. Il est ressuscité, nous le vivrons encore la semaine prochaine, nous le rappellerons avec force et puissance. Amen.
Amen.